Nora Asseval, je suis conteuse, je me définis comme conteuse issue de la tradition traditionnelle et je suis porteuse d'un répertoire algérien, d'Algérie, qui me vient de ma famille d'Algérie, en arabe. J'ai tout reçu en arabe et que je raconte en français. Et je fais un travail de recherche, de collectage sur le terrain pour la sauvegarde des contes. Je collecte là où je me trouve. C'est comme compter, pour moi, collecter chaque fois que je peux et que les gens sont d'accord, je collecte. Mais j'ai un terrain sur lequel je travaille, c'est le terrain algérien, donc en Algérie, dans le sud-ouest de l'Algérie. Ça fait de nombreuses années, on peut dire 20 ans maintenant, que je collecte dans le sud-ouest, à Tiaret, dans les hauts plateaux de Tiaret. Plus spécifiquement à Tousnina, là où je suis née. Je suis née dans une ferme dans cette campagne du sud-ouest et c'est mon terrain puisqu'il y a ma tribu maternelle qui est là. Moi, j'ai appris à raconter en écoutant ma grand-mère, ma tante. D'ailleurs, je ne le savais même pas jusqu'à l'âge de 40 ans. Pour être conteur, il faut avoir un certain âge, il faut avoir de l'expérience. Vous savez, il faut avoir beaucoup vécu, beaucoup de bonheur et... Malheureusement, beaucoup de choses plus tristes, hein, parce que c'est ainsi qu'on se nourrit les contes des gammes de sentiments qu'on a vécues. Hein. Ce n'est pas du théâtre. C'est conter, c'est pas faire du théâtre, c'est transmettre. Et c'est ce qui me pousse, c'est transmettre. Transmettre mon Algérie à ma France et transmettre ma France à mon Algérie. Je suis née d'un père pied noir et d'une mère arabe, ce qui était très rare à l'époque coloniale. Vous savez, une arabe ne pouvait pas épouser un pied noir. Le contraire était quand même plus facile. Un arabe pouvait plus facilement épouser une française et le contraire était plus difficile. Donc je suis issue de ce mariage et issue de cette double culture. J'ai appris les deux langues en même temps. Eh bien, je peux très bien penser en arabe et parler en français et le contraire. Et quand je traduis ces contes, je n'ai pas le sentiment de les traduire, j'ai le sentiment tout simplement de les raconter dans mon autre langue. Et je n'ai pas l'impression de perdre, sinon les formules versifiées, mais j'ai appris à les traduire et à les penser autrement. Et si je les pense autrement, celui qui les reçoit, il va les recevoir comme je les transmets. Donc le tout est une question de transmission, on n'est pas dans la performance, on est dans la transmission, transmettre une parole.
Et est-ce que le rapport au conte et donc aussi à la transmission, à l'oralité, à toute cette histoire orale, est-ce qu'il est très différent en France et en Algérie ?
En Algérie, ça dépend qui raconte. Quand c'est la mère de famille qui raconte, elle transmet à ses enfants, c'est une éducation. C'est quand même de la littérature orale parce que vous allez dans le monde rural en Algérie, même si les gens ne savent pas lire et écrire, ils sont très instruits. Ils ont une instruction grâce à cette littérature orale. Ce que l'on ne peut pas peut-être avoir dans un pays où la télévision a remplacé justement la communication et la transmission des anciens. Hein. Heureusement qu'il y a l'école qui peut donner une instruction. Mais quand il n'y a pas l'école et qu'il n'y a que la télévision, ben là c'est tragique. L'homme n'a aucune instruction à ce moment-là. S'il n'y a pas la littérature orale ou pas l'école. L'école quand même fait beaucoup aussi. Et en France, le conte, moi, je l'ai perçu dans un premier temps comme un moyen ludique de faire passer le temps. Mais je me suis trompée quand même parce que avec le temps qui est passé, à force de raconter, j'ai compris qu'on pouvait, même en France, en situation extra-familiale, extra-contextuelle, on pouvait quand même transmettre. Le tout, c'est de le vouloir, de se dire « je suis là pour transmettre et pas pour amuser la galerie ». Et même si j'amuse la galerie, il faut transmettre quelque chose derrière, pas amuser la galerie pour l'amuser. Voilà. Le conte, c'est quelque chose de sérieux et d'important. C'est en écoutant qu'on finit par être habité par le conte. C'est un état d'être, conteur, c'est pas un métier, contrairement à ce qu'on croit. C'est un état d'être, on est conteur, c'est un état d'être, on est un conteur, 24 heures sur 24 et toute une vie. C'est un état d'être. C'est l'histoire d'un cheval et d'un sultan. Cet sultan qui aimait son cheval plus que tout au monde, et on sait combien les Arabes aiment les chevaux, il aimait tellement son cheval que lorsque l'animal est tombé malade, le sultan a perdu la tête. Dans son chagrin, il a dit « Celui qui m'annoncera la mort de mon cheval, je lui ferai trancher le cou. » Et il ne plaisantait pas. Alors on a fait venir un grand savant, un grand médecin. C'était à l'époque où les médecins étaient aussi des grands savants. Et le grand Hakim l'a examiné et il a vu le cheval couché sur le flanc, les pieds en avant, et il a compris que le cheval allait mourir. Et malgré les bons soins prodigués, le cheval a rendu son dernier souffle pour rejoindre la prairie éternelle de ses ancêtres. Mais alors, comment annoncer la nouvelle au sultan sans se faire trancher la tête ? Le savant a réfléchi. Il a réfléchi, mais comme il était très éclairé, il a trouvé la parade. Il est sorti, le sultan était devant la porte, il attendait des nouvelles de son cheval. Et il lui a demandé, « Et alors, mon cheval ?» Et le docteur, enfin le médecin, lui a dit de manière versifiée en arabe, العود تكسل وتسوى ومد كرعيه في الهوى اما اللي يقول لي مات من فم السلطان جات. Je traduis. Sire, le cheval s'est allongé et étendu, et dans le vide ses pieds se sont tendus.
Mais alors il est mort.
Sire, c'est de votre bouche que la nouvelle sort. Voilà. Un petit conte des hauts plateaux de Tiarette.